French Connection, Cédric Ingrand.
Salut à tous, bienvenue dans la French Connection, le rendez-vous hebdomadaire de tout ce qui fait, qui défait l'actualité du web et des technologies. Une actu qui fait, comme toutes les semaines, débat dans ce studio. Ils sont journalistes, blogueurs, pas de blogueurs cette semaine d'ailleurs, enfin ça dépend, entrepreneurs, un gang qui a des opinions et pas peur de s'en servir. Ce sont nos suspects habituels aujourd'hui, Amaury Mestre de La Roque, du Point, bonjour Amaury.
Bonjour à tous.
Rodrigo Sepúlveda, PDG de Vpod.tv, bonjour.
Comment ça va?
Eh ben, il faut parler dans le micro.
Et oh, bonjour.
Et un petit nouveau, petit mais costaud, bonjour Tristan Nitto.
Bonjour.
Vous êtes le président de Mozilla Europe, la fondation qui préside aux destinées du navigateur Mozilla, Firefox.
Certes.
Jusque-là, j'ai bon.
Oui.
On a envie de vous dire, Mozilla, combien de divisions? Jusque-là, vous étiez quand même la concurrence la plus aboutie, la plus crédible face à Explorer. Face à Internet Explorer de Microsoft, ça c'était vrai il y a 2, il y a 3 ans.
Bah on était à peu près les seuls.
Et surtout vous étiez les seuls. Aujourd'hui vous n'êtes plus seuls.
On a
vu
apparaître
Chrome, le navigateur de Google.
Et puis il y a Safari aussi qui est devenu crédible. Il y a Opera qui fait des progrès. Et tout ça, c'est bourré de bonnes nouvelles parce que nous on n'est pas là pour gagner des sous. On est là pour faire avancer le net. On est là pour faire avancer le marché des navigateurs et le fait qu'il y ait plus de concurrence, c'est bien. Donc on s'en réjouit.
Alors on est ravis que vous soyez là, ne serait-ce que pour nous expliquer, allez, 2-3 choses. On a été surpris tous quand on a vu sortir Chrome, le navigateur de Google, puisque jusque-là on se disait, bon, évidemment Google et Firefox sont les meilleurs amis du monde, parce que Firefox sert à fendiller un peu l'armure de Microsoft, en tout cas sur sa part de marché sur des navigateurs Internet. Donc forcément quand on a vu Google sortir son navigateur, on s'est dit, mais quoi, ils sont fâchés?
Ah non, on n'est pas fâché. Puis je pense qu'on est un peu plus que fendillé quand même. Parce que là, aujourd'hui, AT Internet Institute a publié la semaine dernière des parts de marché où en Europe, on est à 32,5% de parts de marché.
Oh, c'est énorme.
Pour Firefox et 58% pour Internet Explorer. Donc quand un tiers de la muraille est tombé, on ne peut pas dire que ça soit juste fendillé. Une fois dit ça, c'est vrai qu'il y a Chrome qui est arrivé. Pour nous, ce n'est pas une surprise parce qu'en fait, Google nous l'avait dit. D'autant plus qu'ils avaient quand même embauché des... Enfin, en fait, il faut quand même savoir que Chrome est essentiellement fait par des anciens Mozilliens.
D'accord.
Donc, je ne peux pas en dire du mal.
Pourquoi ils sont partis?
Sûrement parce qu'on leur a fait un gros chèque et qu'on leur a promis des stock options, oui.
Ah, parce que c'est mal payé de travailler chez vous?
Non, c'est correctement payé, mais c'est sûr qu'on ne deviendra jamais millionnaire parce qu'il n'y a pas de stock option, il n'y a pas de billet de loterie marqué peut-être que vous gagnerez si vous travaillez pendant des années.
Alors c'est un hasard de l'actualité, mais là, il y a quelques heures, Microsoft vient de lancer son nouvel Explorer, Internet Explorer 8. Vous l'avez testé?
Oh oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est difficile.
Vous n'êtes pas forcé de répondre.
Déjà, c'est un événement. C'est parce que IE6 est resté sur le marché pendant genre 5 ans. Quoi.
Ouais.
Alors, voir un nouvel Internet Explorer qui sort après 30 mois après le précédent, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a une deuxième très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un meilleur support des standards, ce qui permet de faire des sites web qui fonctionnent aussi bien dans Internet Explorer que dans Firefox, que dans Chrome, que dans Safari et dans Opera.
Oui, parce que c'est un truc qu'il faut tester d'ailleurs. Si vous avez plusieurs navigateurs sur votre PC ou votre Mac, lancez-les alternativement pour regarder des sites connus. Vous allez voir, ça ne ressemble pas toujours à la même chose.
Ben voilà, exactement. Donc c'est un progrès. On espère que ça va savonner la planche pour Internet Explorer 6 qui est un cauchemar. Parce que
ça date d'il y a... C'est 2003, 2004.
2001
Explorer 6.
Oui. C'est sorti en même temps que XP, septembre 2001, horreur, juste avant le 11 septembre. Ça ne peut pas être une coïncidence.
Donc, Tristan, et encore 30% de parts de marché dans plein d'entreprises, sinon 100%, et qu'on va proposer des solutions Web 2 type Ajax, quelque chose qui bouge, ça marche pas. Ben oui, vous êtes sur IE6. Ah oui, mon papa,
c'est de la merde.
Attendez, juste pour voir, je lance le navigateur qui est sur le PC qui est devant nous. C'est une version 6.0, absolument.
Eh bien, donc un petit message pour la DSI de LCITF1. Il faut faire quelque chose de
France.fr. Franchement, il faut arrêter IE6, le jeter à la poubelle et passer à IE7, qui existe hein, quand même.
Ben non, mais IE8 est sorti hier.
Camino,
IE8, même. Mais dans le pire des cas, IE8. Mais bon, je pense que Firefox est mieux, mais. Déjà un navigateur moderne, par pitié, c'est le web qui vous supplie à genoux, mettez un navigateur moderne.
Surtout Microsoft a arrêté officiellement de supporter IE6.
Oui, mais ça c'est pas très grave parce que les entreprises continuent à l'utiliser.
Mais ça n'empêche, c'est toujours une merde.
Il faut dire quelque chose d'assez clair, c'est que si finalement Microsoft fait de meilleurs navigateurs aujourd'hui, parce que même vous le reconnaissez, même si vous avez un produit concurrent, c'est un peu grâce à vous.
Oui,
souvent. Ce coup-là, la concurrence est bonne.
Mais exactement, parce que à l'époque où il y avait un monopole, c'était la stagnation.
Il y avait Netscape quand même, non?
Mais Netscape avait été tué en fait. Hein. Moi, j'y étais. J'étais chez Netscape. J'étais licencié en juillet 2003 parce que Microsoft avait tué Netscape et avait filé un petit chèque à AOL pour qu'on enterre ce léger différent, un chèque de 750 millions de dollars quand même. Donc il n'y avait plus Netscape et puis il y avait cette poignée de rebelles Mozilla en l'occurrence, et c'est là qu'on a essayé de réintroduire la concurrence. Mais pendant des années, Internet Explorer 6 avait 95% de part de marché, ou 98%, et Opera essayait, Opera est là depuis super longtemps. Et aujourd'hui, ils sont à 1,5%.
D'ailleurs, comment vous expliquez que ça soit Opera qui a été retenu par un fabricant de consoles comme Nintendo? Pourquoi ça n'a pas été le navigateur Est-ce que vous avez été consulté d'ailleurs?
On explique, il y a un navigateur web sur la console Wii de Nintendo. Et il est dérivé d'Opera, alors qu'il aurait pu être Firefox, il aurait pu être autre chose.
Mais ça c'est révélateur d'une industrie qui est en train de changer. Et le parallèle est très fort, en fait, avec les téléphones mobiles. C'est-à-dire que c'est une industrie. Je vais prendre l'exemple de la téléphonie mobile parce que je pense que c'est plus révélateur que simplement le cas de la Nintendo, Wii de Nintendo. C'est des gens qui ont pris l'habitude d'aller voir un fournisseur de solutions logicielles type Opera. Leur dire, voilà, j'ai un device, alors ce device, enfin cette machine, ça peut être aussi bien une Wii qu'un téléphone. Et dire, je voudrais mettre un navigateur dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Et des gens comme Opera sont très bien équipés, sont structurés profondément pour dire, écoutez, j'ai un logiciel que j'ai fait, le code source est fermé, c'est un secret industriel que je vais vous confier. Personne n'a le droit d'y toucher, sauf mes ingénieurs. Alors, je vais vous, pour chaque console, je vais vous vendre une copie du logiciel, en l'occurrence Opera. Mm-hmm. Je vais mettre des consultants dessus qui vont adapter le logiciel à votre configuration. Et puis, on va le vendre aux utilisateurs. Ça, c'est l'ancienne méthode. Et aujourd'hui, l'industrie, elle est en train de passer à l'open source, au logiciel libre, où des gens comme Mozilla ont plus d'avenir. Je cite un exemple. Alors là, c'est si aujourd'hui quelqu'un travaille sur une console ou sur un appareil mobile, au lieu de payer des consultants de chez Opera pour modifier le logiciel et ensuite payer une licence pour chaque copie vendue, eh bien, ils peuvent voir Mozilla et même sans nous demander l'autorisation, ils vont télécharger une copie de notre code, le bidouiller eux-mêmes pour l'adapter avec notre aide ou pas.
Ça a pris un certain temps jusqu'à présent, en tout cas, parce que sur les téléphones mobiles, vous en parliez, il y a essentiellement Opera Mini qui a l'air d'emporter les suffrages.
C'est ça votre actualité. Parce qu'on vous fait parler de la concurrence, qui n'est pas forcément très charitable.
Non.
Mais vous allez sortir, vous avez une nouvelle version de Fennec. C'est le petit Firefox.
Voilà, Fennec, c'est le Firefox pour mobile, qui vient de sortir en toute première version bêta, il y a quelques jours. Pour l'instant, c'est sur la tablette Nokia N810.
Qui s'est très largement vendu en plus.
C'est clairement...
C'est charitable.
C'est clairement un proto. C'est pour voir si on peut faire tourner ce genre de choses sur des appareils qui ne sont pas des appareils de bureau. Hein. Aujourd'hui, le moindre ordinateur acheté de gondole, c'est 2 gigas de RAM.
Le navigateur était peut-être plus attendu, sur un appareil Windows Mobile ou sur un...
Ah mais on a une version Windows Mobile en préparation et un Symbian.
Sur l'iPhone, vous pouvez peut-être dire aux auditeurs de Cédric, alors c'est pour quand? Parce que je pense que ça doit aller... Ils bouillent d'impatience de savoir quand est-ce qu'ils pourront tester Fennec sur autre chose que la tablette PC.
D'ici la fin de l'année, on aura des versions sur d'autres, sur d'autres plateformes Windows Mobile, mais aussi tous les téléphones Linux, en fait, hein, puisque la tablette Nokia, elle tourne sous Linux, donc c'est très facile de prendre ça et l'adapter à un autre téléphone Linux. Donc, ça se trouve,
En France, il n'y en a pas beaucoup aussi. Il y a quoi, par exemple?
J'en sais rien. Ça
va venir. Il y a une fondation qui s'occupe de ça. Et puis
ça prend un certain temps.
Puis ça tourne sur Android aussi, j'imagine.
C'est un peu plus difficile parce qu'Android est structuré pour accepter des applications en Java. Évidemment, on n'a pas écrit notre truc en Java parce qu'on veut qu'il marche. Donc,
La fondation Mozilla, pas que les navigateurs, parce que Camino et tout ça, mais Songbird, qui vient de sortir en version plus récente.
Alors, Songbird, c'est pas fait par nous.
On rappelle c'est avec Songbird, non?
Oui, juste en deux mots.
Manic Moons du libre, c'est ça, voilà, qui permet d'organiser toute sa musique sur son ordinateur.
Voilà, exactement. Alors en fait, Songbird, c'est un genre d'iTunes, mais en version logiciel libre, qui est basé sur la technologie Mozilla, mais qui n'est pas fait par nous.
C'est-à-dire qu'en fait, 90% du code... c'est quelqu'un qui a repris la technologie dans son coin.
C'est du code source ouvert, les gens ont le droit de le réutiliser. Donc une start-up s'est montée et ils ont fait un concurrent d'iTunes sur la base de la technologie Mozilla et ça s'appelle Songbird. Mais nous, on a, même si 90% du code vient de chez nous, on n'a rien à voir avec eux.
Bon, l'autre actu de la semaine, c'est la passe d'armes à fleuret empoisonné qui a opposé d'un côté les deux patrons de Dailymotion, le site de vidéos en ligne qu'on connaît bien, et Nathalie Kosciusko-Morizet, notre secrétaire d'État à l'économie numérique. Alors, petit rappel des faits, Le Figaro, il y a quelques jours, publie une lettre qui n'était pas une lettre ouverte d'ailleurs. Des deux patrons de Dailymotion à Nathalie Kosciusko-Morizet qui lui disent, écoutez, alors je vous la fais rapide, des députés demandent des commissions parlementaires pour enquêter sur les plateformes vidéo qui seraient une menace pour l'exception culturelle française. Il y a dans le gouvernement un courant de pensée clairement anti-internet auquel vous ne vous opposez pas ou en tout cas pas assez. Bref, une espèce d'attaque un peu ad hominem qu'on a honnêtement un tout petit peu de mal à comprendre, puisque finalement il ne lui reproche pas directement des choses à elle, mais lui reproche à Nathalie Kosciusko-Morizet ce qui se passe ailleurs dans le gouvernement. Et ben ça n'a pas tardé, elle a répondu immédiatement sur sa page Facebook en envoyant une petite copie à l'AFP parce que c'est efficace aussi. Et alors là, j'ai la lettre sous les yeux et comme on dit à la campagne, elle leur envoie pas dire. Elle dit Martin Rogard, c'est le patron de Dailymotion, est l'acteur de l'internet le moins bien placé pour écrire cette lettre qui justifie l'article du Figaro ou dénoncer un soi-disant silence. D'abord parce que il est l'occasion d'en parler avec moi de vive voix, et puis parce qu'il était présent au cabinet du ministère de la Culture pendant les lois précédentes sur le piratage, la DADVSI, etc., etc. En clair, elle dit, il a accès à moi, on se parle quand on veut, que faut-il ? Faut-il des couverts en or pour recevoir Martin Rogard ? Est-ce que vous avez compris cette affaire ?
Rien compris, moi. Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais j'ai absolument rien compris. Moi, je suis sûr que Rodrigo a une lecture, mais moi, j'ai rien compris.
Je suis étonné, en fait. Je suis étonné que la France... n'investissent pas plus son âme dans le développement de l'Internet. On en a parlé plusieurs fois ici. C'est vraiment un moteur de croissance, moteur d'emploi, moteur d'avenir. Et on a juste un secrétaire d'État sur l'Internet. On fait des lois, la décence interdit de les qualifier, ici, contre l'Internet. Et donc, moi, je me pose la question de pourquoi Dailymotion, et on reparlera peut-être de Dailymotion, de sa légitimité à faire cela, se dit « Coucou, le gouvernement, on existe, il faut promouvoir l'Internet ». Je m'interroge pourquoi un certain monsieur Lefebvre raconte des choses bizarres quand même sur...
Il n'est pas au gouvernement, Frédéric Lefebvre, attention.
Non, il est un petit peu proche du président de la République, semble-t-il.
C'est ce qu'on dit. Et député, porte-parole du parti.
Il est un petit peu repris partout et il parle beaucoup de Dailymotion aussi, ce qui est étonnant. Et que ça renvoie comme ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre.
Non, mais vous êtes intéressant. Oui, c'est comme lecture.
Et à vous écouter, ça ne s'éclaircit pas beaucoup. C'est peut-être une hypothèse sur la question, je ne sais pas.
Alors, Dailymotion, il faut s'en souvenir, c'est monté sur le modèle de YouTube. Alors, ils vont dire qu'ils ont été inventés un mois ou deux avant. Mais si vous vous souvenez bien, YouTube s'est lancé, donc le site américain, 5 milliards de vidéos vues aux US, sur les 2,7, s'est monté sur deux choses. La première, sur le piratage d'œuvres qui était Saturday Night Live, qui est la grande émission du samedi soir humoristique aux États-Unis.
En gros, sur la publication de choses qui étaient déjà passées à la télé.
Qui ne leur appartenaient pas, qui a drainé beaucoup d'audience chez eux. Et que les gens ont dénoncé, Viacom leur a fait un procès, etc. Ouais. Et Dailymotion a fait la même chose. Et quoi qu'ils fassent avec tous leurs accords, avec la SACEM, etc., ça ne porte que sur quelques dizaines de milliers de fichiers, et pas sur les millions de fichiers qu'ils ont chez eux.
Enfin,
donc il y a une
aujourd'hui.
Énorme hypocrisie sur le succès d'un Daily ou d'un YouTube, en se disant, ils ont piraté tout le monde, ils ont fait un gros succès, ils ont une grosse audience aujourd'hui.
Attends, quand on dit « ils », c'est leurs utilisateurs.
Ah bah ils sont hébergeurs, c'est David Arder ça.
Toutes les marques aujourd'hui qui annoncent sur Dailymotion en achetant des corners, c'est tous les gens qui passent de la pub sur Dailymotion parce qu'il faut y être, parce qu'il y a de l'audience. Mm-hmm. En fait, c'est une hypocrisie globale de se dire, tiens, ce site pirate, on va faire des procès ou pas. D'ailleurs, beaucoup de gens ne font pas de procès en se disant peut-être qu'il n'y a rien à gagner pour l'instant. Et pourtant, on va financer Dailymotion derrière. Donc je suis très étonné de la légitimité d'un acteur comme ça qui s'est construit sur le piratage. Et pour terminer, deuxième chose, YouTube s'est lancé à l'époque avec le trafic d'un MySpace. Ils se sont servis du trafic de MySpace pour se lancer. Si vous vous souvenez, ils ont été coupés de MySpace 3 fois. Dailymotion, eux, se sont juste lancés en copiant le contenu qui appartient à d'autres personnes.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, moi, de quoi il s'agit, là.
Alors, pour tout vous dire, on a appelé l'un des deux co-signataires de la lettre de Dailymotion, c'est Giuseppe De Martino, qui est leur directeur juridique. On voulait savoir si on pourrait l'avoir à l'antenne. Il a préféré décliner. Il a dit, écoutez, vous savez, on regrette que cette lettre ait fuité. On ne voulait pas que cette lettre soit rendue publique. Elle datait de février. Apparemment, elle a trouvé son chemin d'un cabinet à l'autre. Elle a fini par atterrir dans les mains du Figaro. On ne voulait pas que ça sorte du bois. On aurait surtout voulu avoir une réponse privée de la ministre. Ce qu'on n'aura pas eu.
Mais une réponse à quoi, cher Cédric, juste pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit?
Eh ben écoutez, je ne sais pas, aller lire la lettre sur le site du Figaro.
Oui, c'est ce que j'ai fait et je n'ai pas compris.
Eh ben voilà.
En gros, la lettre, elle dit « Madame la ministre, faites quelque chose pour l'Internet ».
Ouais, en gros, la lettre, elle dit vous avez autour de vous des gens qui ne considèrent pas que ce qu'on fait est un vrai métier, qui nous considèrent un peu comme des Boy Scouts, soit comme des pirates. C'est ce qu'ils disent quand ils parlent d'une espèce d'atmosphère anti-Internet.
C'est ce que disait Rodrigo, c'est assez juste. C'est, finalement, on va sur Dailymotion et sur YouTube pour faire quoi? Pour voir des extraits de films, pour voir des extraits d'émissions, pour récupérer. Finalement, tout ça, c'est des contenus qui sont effectivement sous droit d'auteur. Et il y a un moment ou un autre, si on vidait tout. Toutes les captures d'émissions.
Vous ne laissez pas déconcentrer.
Non, je ne me laisse pas déconcentrer. Toutes les captures d'émissions ou les bouts de films, bah, il resterait quoi?
Bah, il resterait des vidéos du chat qui tombe du frigo, quoi. Mais,
oui, bah voilà.
Et puis d'autres choses, parce qu'il y a quand même des contenus qui, là, sont envoyés sur ces sites-là.
Moi, je fais des contenus, je le mets sur Dailymotion.
Ouais, voilà.
Mais...
Ouais, ça reste
tu mets quoi?
Je mets des interviews de gens de la communauté Mozilla, des trucs que je vois, etc. Enfin, pour moi, c'est pratique.
Ça soulève deux choses.
Ouais. Je suis peut-être pas l'audience majeure de Dailymotion non plus.
Je pense que ça soulève deux problèmes importants. Le premier, c'est de se dire que c'est bien, en fait, ce qu'ils font au Daily. C'est des acteurs du net, ils sont reconnus, etc. On mettra la légitimité de côté, de se dire, faites quelque chose pour nous. Ça aurait pu être une société qui fait des clôtures et qui appelle le ministre de je ne sais pas quoi, l'agriculture, par exemple, en disant, soutenez des gens comme nous. Voilà, très bien. Super, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait même pu être les représentants, tu vois. On a, je crois, une association qui est dirigée par quelqu'un qui fait du commerce électronique. Qui aurait pu représenter. Voilà.
Vous parlez Parallelips, vous parlez du frère d'un intégrateur qui s'appelle Pierre, qui est le patron de Press Minister.
Je parle surtout du président de l'association. Hein,
oui, tout à fait.
Amérique, hein, je parle surtout Escalité, de ça.
Absolument.
Et le fait qu'il y ait des relations avec elle n'a rien à voir.
Ouais.
La deuxième chose qui, moi, me trouble dans le cadre d'Animotion, c'est que c'est un service gratuit qui est utilisé à titre quasiment gratuit par toutes les grandes entreprises qui sont en gros en train de se tirer une balle dans le pied. En se disant, cette boîte-là n'arrive pas à avoir suffisamment de revenus, et tout le monde reproche à Dailymotion de ne pas avoir suffisamment de revenus, on ne les paye pas pour utiliser. C'est leurs investisseurs qui payent, à un moment ils vont arrêter de payer, et du coup Dailymotion peut-être ne continuera pas de vivre, et du coup on n'a pas créé un écosystème en France en payant des sociétés à la juste valeur de leurs services.
Alors si on résume, parce que d'ailleurs ils le font dans leur lettre, il est facile de résumer l'atmosphère dans laquelle nous évoluons en France, à la différence de ce qu'on peut connaître la société dans le cadre de son expansion à l'étranger. En gros, elle dit, si tu as une idée, je te taxe et je te régule. C'est ça, en fait, finalement, la complainte qu'on entend d'ailleurs ailleurs, hein, chez d'autres entrepreneurs.
Non, mais il ne faut pas rigoler. Attendez, Dailymotion, je ne sais pas quel est leur chiffre d'affaires, on en a parlé la semaine dernière, mais ils font peut-être quelques dizaines de millions d'euros, peut-être 10 millions, peut-être 15, peut-être 20, j'en sais rien. Même si taxé à 50%, Dailymotion, ce n'est pas 5 millions ou 10 millions d'euros qui vont changer la face de la France.
Oui,
donc on taxe quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a un danger pour tous ces services. Alors là, on va aller au-delà de Dailymotion, parce que ça en touche beaucoup d'autres. Des gens qui, finalement, ont peu de chiffre d'affaires, dont on n'est pas sûr que le modèle économique existe réellement, et qu'à ce moment-là, on va quand même taxer le chiffre d'affaires.
Mais on disait la même chose sur Amazon il y a 10 ans, qu'on travaillait sur le commerce électronique, on était en 98-99, tous les quarters, c'était des chiffres dans le rouge pour Amazon. Il faut donner du temps, en fait, à ces entreprises. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est... Le chiffre d'affaires viendra beaucoup plus tard. Il faut asseoir, pour certains modèles, une énorme base installée d'utilisateurs. Il faut créer des réflexes. Et le chiffre d'affaires viendra plus tard. Aujourd'hui, Amazon est une référence, eBay est une référence. Il faut leur donner le temps de se développer. Donc, effectivement, peut-être qu'il ne faudrait pas taxer les gens d'innovation et les gens des entreprises de croissance comme ça pendant 5 ans, par exemple.
C'est intéressant parce qu'on sait que des députés de leur côté disent « Vous allez voir, on va être forcé de taxer de toute façon tous ces services sur Internet pour arriver à compenser la baisse de rentrée fiscale des anciennes industries de la culture, c'est-à-dire la musique, le cinéma, etc. etc. »
Je vous la refais, on est passé d'un milliard et quelques à 700 millions, à 349 millions. Si on est en centaines de millions, la baisse de l'industrie culturelle en 7 ans, c'est pas les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires de Dailymotion qui est le champion français dans le secteur. Même si tu es taxé à 50%, ça ne fait que 5 millions, ça ne compense pas, donc ça ne sert à rien.
Bien, on continuera cette discussion dans la seconde partie de cette émission. Juste après le journal, on parlera aussi de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort de chez Apple. Il se passe plein de choses. D'un petit acteur qui s'appelle Flip, racheté par un très gros acteur, qui s'appelle Cisco. Et puis de Zero One, le premier opérateur mobile 100% forfaitaire. Ça se passe aux États-Unis. On se retrouve juste après le journal.
French Connection, Cédric Ingrand.
Retour dans le studio de la French Connection, toujours pour passer ensemble en revue toute l'actualité technologique de la semaine, toujours avec Amaury Mestre de la Roque du Point, avec Rodrigo Sepulveda de Vpod.tv et avec Tristan Nitto, le patron de la fondation Mozilla en Europe. C'est un vrai job, ça fait longtemps que vous êtes à la tête de la fondation ?
Oui.
2003, dit Wikipédia.
Wikipédia a souvent raison. donc j'ai créé la filiale européenne à cette époque-là, mais j'ai commencé à bosser à plein temps sur Mozilla en 2001 et bénévolement avant que ça se lance, en fait, en 97.
Bénévolement ? C'est ça, beau.
ça a été bénévolement pendant très longtemps, d'ailleurs. Donc,
ouais. Je peux polémiquer un petit peu, là, Cédric ?
Vas-y, lâche-toi.
Je ne peux pas vous en empêcher, Rodrigo.
L'autorisation. Je commence à en avoir un petit peu assez, moi, des services gratuits sur Internet et des gens qui disent faire de l'argent, c'est pas intéressant.
Ah, mais ça, c'est parce que votre service est payant, c'est normal.
Non, c'est pas ça. C'est que Internet, c'est vraiment l'avenir. En tout cas, moi, j'y crois, vu que j'y passe à peu près 18 heures ou 19 heures par jour.
Trop.
Non. Mais il faut financer ces entreprises, sinon elles vont crever avec cette crise.
Mozilla, ils l'ont trouvé. Hein.
Mais Mozilla, oui, d'ailleurs, c'est pas une entreprise. Donc voilà, problème résolu, question suivante.
Vous comparez des pommes et des oranges.
Non, mais Mozilla, c'est mon browser par défaut quand même. De temps en temps, je fais défaut, je vais faire un petit peu de Safari 4 bêta, mais sur mon OS 10.
Il parle, il sort trois marques, quoi, c'est ça. J'ai jamais vu ça, quoi.
Non, mais Firefox, c'est super. Comment il fait ?
Il est 19h sur le net par jour.
Firefox, c'est super parce qu'ils ont apporté un truc qui s'appelle les extensions. C'est vraiment super.
Qui permet de rajouter des fonctions.
Néanmoins, qu'est-ce qui les empêcherait, franchement, d'aller au-delà de leurs 75 millions de dollars qu'ils ont fait en 2007 en chiffre d'affaires et en faire plus pour inventer encore des trucs et pour vraiment développer un esprit pour.
Mais oui, c'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée de vendre le navigateur à Nintendo ou à Sony ou que sais-je.
Non, alors, il y a...
Je me resynthétise. Ils ont fait avancer le schmilblick énormément. Merci. C'est vraiment le truc qui nous fait entrer dans Internet, quand même, le browser par défaut.
On a compris.
Pourquoi ils s'arrêtent là ? Pourquoi ils manquent d'ambition ?
Alors, on manque pas du tout d'ambition. Alors, pas du tout. Alors, déjà, merci Rodrigo de mettre le doigt là où c'est important.
Il vous en
prie. Le navigateur, c'est essentiel pour bénéficier d'Internet. Si on a un navigateur de merde, on a un Internet de merde. Il faut être, excusez-moi d'être vulgaire, mais il faut être extrêmement clair. Oui, c'est ça.
Puis on habitue maintenant, je vous le dis.
C'est l'acronyme de quelle loi, ça ?
Parce que, mais en fait, c'est qu'un navigateur, pour faire un parallèle, c'est comme un récepteur de télévision, hein, parce qu'on est quand même dans les locaux de TF1 et de LCI. Si votre récepteur, il est en noir et blanc et qu'il y a des zébrures parce qu'il capte mal, eh ben, on a beau...
Ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé la télé, vous.
Non, mais justement, maintenant, on a des télés modernes, etc. Et on a la HD, etc. Mais si quelqu'un émet en HD et se fait des efforts pour faire des belles émissions, des belles images, etc., et que vous avez un récepteur qui grésille ou une mauvaise réception,
ça
tout
ne
ça
rend
c'est
pas
gâché.
Justice au contenu. Oui.
Exactement. Et le navigateur, il est là pour permettre un contenu de meilleure qualité et on est à ce service-là. Et si on existe, c'est parce qu'il y avait un monopole fait par Microsoft qui faisait un navigateur médiocre qui stagnait, et donc le web stagnait. Et pour tous les passionnés du web, voir cette promesse formidable qu'est le web, le voir stagner, c'était rageant. Et moi, si j'ai œuvré bénévolement pour Mozilla, c'est parce que je veux que le web aille à son plein potentiel. Donc je suis vraiment passionné par le sujet. Donc on est complètement d'accord, il faut un bon navigateur. Maintenant, il se trouve que on est sur un segment de marché qui n'est pas un vrai marché. C'est-à-dire quand il y a un acteur monopolistique qui a décrété que le produit était médiocre et gratuit, c'est très difficile d'arriver de construire un business où on peut concurrencer un monopole gratuit. C'est juste
c'est là où les DSI n'ont pas compris qu'il faut quand même faire avancer le schmilblick et mettre à jour tous ces IE6.
pourrie et merdique qui reste encore dans les parcs.
C'est pas moi qui l'ai dit, mais oui.
Il y a peu d'amoureux d'Internet Explorer 6 dans cette
salle. Non, il y a que des gens mal informés, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et maintenant, c'est un peu plus clair.
Safari 4, c'est top. Firefox 3, c'est top. Camino, c'est bien. WebKit, c'est bien. Opera, c'est très bien.
Honnêtement, moi, Chrome, c'est bien aussi.
Voilà, moi, je suis plutôt Chrome en ce moment. Mais alors, sur le manque d'ambition.
Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train, déjà, on marche, on a des bonnes parts de marché, on est en train de botter les fesses de Microsoft, ça les pousse à sortir des navigateurs meilleurs. Donc, si vous avez Firefox ou un navigateur moderne, vous avez un bon navigateur. Si vous êtes resté sur Internet Explorer, vous avez un meilleur Internet Explorer. Il n'est pas aussi bon qu'un navigateur moderne, mais c'est déjà mieux qu'un IE 6.
Moi, j'ai une question de débutant qui intéressera peut-être les auditeurs. C'est finalement, quel est l'intérêt d'avoir des parts de marché dans cette activité-là ? Comment on gagne sa vie ? C'était la question de Rodrigo tout à l'heure. Mais
Simple, ils ont fait un deal de recherche avec Google et donc c'est ça qui leur apporte en gros leur chiffre d'affaires. C'est ça ?
En gros, quand vous avez Firefox, vous avez une petite fenêtre de recherche en haut qui vous permet de faire des recherches soit sur Google, sur Wikipédia, sur Amazon, sur eBay,
sur des dictionnaires,
etc. Et toutes les recherches qui amènent vers Google, par exemple, vous avez un petit partage de revenus sur les publicités que les utilisateurs pourraient cliquer. Et c'est ça qui fait les 50, 75 millions de dollars en Mozilla.
75 millions en 2007.
C'est la ressource exclusive, quoi.
Non, il y a des dons aussi, mais qui sont forcément moindres que 75 millions de dollars.
D'accord. Ouais.
Mais ça nous suffit largement pour vivre.
Non, on comprend mieux l'enjeu donc d'imposer son navigateur, que ce soit chez Apple en l'occurrence pour Safari, chez Google, ils sont chez eux de toute façon.
Oui. Non, mais en fait, il y a pas beaucoup de modèles sur le marché aujourd'hui qui fonctionnent. Il y a celui à but non lucratif, financé indirectement par la monétisation publicitaire, qui est celui de Mozilla. Il y a Opera qui essaye de vendre des licences, qui à mon avis est un modèle qui n'a pas d'avenir. Mmh. Bon, voilà. Ensuite, ils ont repris le modèle de Mozilla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le modèle où il vaut mieux avoir un navigateur correct pour livrer avec son système d'exploitation. C'est ce que fait Microsoft. Mmh. Et c'est aussi ce que fait Apple, hein, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent avec Safari.
C'est ce que fait Google, en fait.
Et voilà une variante qui est Google, avoir un navigateur pour permettre de faire des services innovants.
Parce que c'est maîtriser un peu le navigateur pour être sûr de voir comment les services vont passer. Bon, tout ça est bien, mais on vous rappellera quand même sur le manque d'ambition. Parce que est-ce que ça pourrait s'appliquer à autre chose qu'au navigateur ?
Mais quand ils disent que Songbird, c'est pas eux, 90% du code, c'est eux, mais c'est pas eux.
Mais c'est pas un manque d'ambition. Mais c'est le problème de l'open source.
Mais moi, j'ai pas du tout envie de faire un lecteur musical, mais ça veut pas dire que ça soit pas bien. Moi, je permets à une start-up qui est Songbird de faire un excellent produit qui est Songbird. Mais allez-y, montez des business dessus, ça me va très très bien, ça. C'est juste que pour nous, c'est une distraction. Il faut quand même pas oublier qu'on est une toute petite boîte, c'est 200 employés, et face à nous, qui on a ? Google, excusez-moi du peu.
Ouais.
Apple,
pas mal.
Microsoft, et puis on a Opera, voilà. Et donc, je veux dire, être une boîte 200 personnes, 75 millions de dollars, faire face à Google, à Microsoft et à Apple, c'est pas manquer d'ambition, c'est même avoir des énormes couilles.
Eh bien, écoutez, c'est dit. Alors, vous parliez d'Apple, ça tombe bien, parce qu'Apple est dans l'actu, comme toutes les semaines, je veux dire, en même temps. Ce qui est bien, c'est que même quand il n'y a pas d'actu sur Apple, il y a des rumeurs. Donc, ça permet d'en parler absolument.
Comment ça, il n'y a pas d'actu ?
Alors, là, on est d'accord. Cette semaine, il y a une actu. Ouais. Elle est énorme. La mise à jour du système d'exploitation, du système de l'iPhone.
Et comme diraient tous mes amis sur Twitter, l'énorme information qui sert à rien.
Le copier-coller.
Enfin, le copier-coller sur l'iPhone. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?
Ça, il faut expliquer parce que si vous n'avez pas suivi le dossier, il faut dire que depuis le début sur l'iPhone, il manquait pas mal de choses sur l'iPhone. Mais alors, il y a une chose absolument incompréhensible. Apple a inventé presque le copier-coller. Enfin, la copier chez Xerox, mais on va pas ressortir les vieux dossiers.
Populariser, on va dire.
Voilà, on va dire à populariser le copier-coller. Vous prenez des données, une image, du texte d'un côté, vous le replacez dans un autre logiciel, vous copiez un texte de votre navigateur à votre courrier, etc. Ça n'existait pas sur iPhone depuis le début. Ça y est, maintenant, la mise à jour du système va permettre d'avoir le copier-coller sur iPhone.
Enfin, la vraie info, c'est pas du tout ça. C'est le in-app store. C'est maintenant, il y a un SDK, donc une librairie de développement sur les applications sur l'iPhone, qui permettent d'acheter soit des niveaux supplémentaires, soit d'aller plus loin, soit d'acheter des goodies à l'intérieur des jeux. Alors, si c'est sur un iPhone qui est connecté au réseau, ça, c'est extrêmement intéressant.
Ou même des magazines,
et comme ils sont bons en marketing, ils disent 70% des revenus Vont aller aux développeurs, c'est-à-dire qu'ils prennent quand même une
petite marge de 30%. C'est pas mal, c'est sympathique.
Mais c'est quand même ça la grosse info de
l'iPhone. C'est une bonne guerre, c'est une distribution classique.
C'est logique, en plus ils leur donnent une vitrine qui est quand même intéressante.
C'est vraiment bien.
En clair, jusque-là sur iPhone on pouvait acheter des applications, des logiciels, aujourd'hui on pourra acheter du contenu en plus.
Alors l'autre info, ils ont donné des chiffres, en fait sur la répartition des iPhone et de l'iPod depuis le lancement. Ils sont à 30 millions d'appareils, de devices, en gros un petit peu moins de 18 millions sur l'iPhone. C'est quand même une plateforme qui est jolie. Hein,
ouais, c'est, c'est très joli. Ouais.
Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a toujours un revers à la médaille. Et, c'est l'App Store et c'est le fait qu'ils aient mis en place un Application Store qui est exclusif. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien techniquement faire tourner un Firefox sur l'iPhone.
Oui, bien sûr.
C'est possible.
Mais c'est interdit.
C'est interdit. Pourquoi ? Parce que la concurrence emmerde Apple. Donc, c'est ça le problème.
Mais moi, il y a autre chose.
C'est-à-dire que... là, il se préserve un précaré monopolistique pour pas être challengé.
Ouais,
et
c'est
ça,
il faut
je trouve que c'est pas bon pour le consommateur.
Tous les logiciels. Il y a de la place sur Symbian quand même. Il y a quand même plein d'appareils Symbian où il peut faire plein de choses.
Voilà, mais c'est pas l'Apple tout de suite. Il faut le dire, toutes les applications, tous les logiciels qui sont vendus sur ces magasins en ligne, que ce soit sur l'iPhone, etc., c'est Apple les valide. On a même dit à un moment que c'était Steve Jobs qui les validait personnellement à son bureau tous les matins. On lui préchargeait des iPhones avec l'application et c'est lui qui les validait. On peut pas croire un truc pareil, mais c'est peut-être vrai.
Connaissant le bonhomme, c'est pas totalement exclu. Hein.
Ce qui veut dire que de fait, il y a des développeurs qui se sont plaints parce que leur application avait été refusée. Il n'y avait pas vraiment de règles officielles. Il n'y avait pas de loi écrite sur ce qu'Apple acceptait ou pas, ou en tout cas des règles qui étaient assez floues.
Ouais, ouais. Moi, ce que je trouve assez à la fois bien pour le consommateur, c'est de la part d'Apple, c'est d'avoir sorti un téléphone qui permette de tout faire, et on voit qu'il y a des mises à jour régulières du micro-logiciel, donc là maintenant on va pouvoir avoir le copier-coller, les MMS ou
si je peux me permettre,
Amaury,
juste une petite parenthèse, il y a des types qui ont décompilé le firmware qui vient de sortir sur la phone, ils ont trouvé des révisions ultérieures avec des numéros de code pour des appareils qui vont sortir plus tard. Donc l'iPhone 3,
mais ça c'est toujours le cas.
Mais ce que je trouve, ils ont trouvé, allez voir sur RetailWeb.
Ça c'est le côté évidemment intéressant pour le consommateur parce qu'on a finalement un appareil qui évolue sans arrêt, ce qui est une bonne chose.
Clairement.
Mais ce qui est très dangereux pour l'industrie de la téléphonie, c'est qu'ils ont amené la logique d'appareil unique. Finalement, après, on pourra faire une évolution, on pourra avoir un iPhone 3, un iPhone 4, mais on ne peut pas amener grand-chose de mieux. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que...
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, jusqu'à présent, les fabricants de téléphones, ils avaient des logiques de gamme. On avait des téléphones par segment. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde veut avoir un iPhone. Pour une raison simple, c'est que ça permet de tout faire. Ça permet de,
Tout le monde sait, il y a 18 millions d'iPhones en circulation. Je vous rappelle qu'ils se vendent 1 milliard d'appareils dans le monde chaque année.
Bien entendu.
Oui, puis moi, je vais quand même
c'est une tendance. Ce que je veux dire, c'est que c'est une tendance. On le voit, la preuve en est, c'est que pour une société comme Palm, qui est dans une situation compliquée en ce moment, qui annonce son Palm Pre, qui est donc une espèce d'iPhone chez Palm. Et ben, en attendant de qu'il sorte,
qui est mieux que l'iPhone,
qui est mieux que l'iPhone. En attendant de sortir cet appareil-là, en attendant de sortir cet appareil-là,
j'ai déjà ma carte bancaire à la main pour le jour où sort le Palm Pre, pour l'avoir essayé. Non, mais honnêtement, pour l'avoir essayé au CES de Las Vegas, j'avais un ami qui était à côté de moi avec son iPhone à la main et qui a dit. Ah bah ça y est, mon iPhone est vieux.
D'accord. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'on en arrive à une logique. Je me permets de finir, Rodrigo. Et on en arrive à une logique de monoproduit. La preuve en est, c'est que Palm annonce des résultats catastrophiques. Ils n'arrivent plus à vendre aucun produit en attendant de sortir le fameux Palm Pre. Et de la même manière qu'on va chez Nokia, ils ont présenté leur nouveau produit il y a 3 jours. On s'aperçoit qu'on arrive tous vers des iPhone-like, enfin des espèces de terminaux.
Oui, plus ou moins, avec ou sans clavier, avec des systèmes différents, avec, on l'a vu avec le dernier Nokia, le N97. Ben voilà.
Mais ça va saigner au final, quoi, parce que forcément...
Oui, enfin, ce que vous oubliez de dire quand même, justement, c'est que tout ça, ce sont des appareils très haut de gamme, c'est pas ça que vous trouvez à 1 euro chez Carrefour.
Vous appelez ça... Attendez, je suis tout à fait pas d'accord.
Rodrigo.
Mais je suis évidemment pas d'accord, parce que SFR annonce...
Les gardiens à Las Vegas, les gardiens ou un iPhone ?
SFR commercialise le 8 avril un iPhone à 49 euros. Vous allez pas me dire que c'est haut de gamme, ça.
Soit.
Voilà. Non, mais avec le truc qui est attaché à un forfait odieusement cher.
Effectivement, un abonnement à 40 euros. Mais finalement, l'abonnement à 40 euros, c'est ce que paye tout le monde.
Est-ce que vous avez déjà appelé quelqu'un qui a un iPhone ?
Oui, absolument.
Est-ce que vous avez déjà fait une conversation qui dure plus de 15 minutes ?
Probablement.
Oui.
Qui ne coupe pas ?
Mais comment t'as fait, toi, vu que t'es sur Internet pendant 19 heures par jour, il appelle pendant le reste du temps.
Enfin, on fait un sondage, c'est-à-dire que Amaury est en train de faire une défense tout à fait passionnée de l'iPhone, il a un téléphone Samsung à la main.
Oui.
Rodrigo, ça doit
c'était pas
être
une défense
truc...
passionnée, hein, d'accord. Bien. C'était au contraire pour dire que, c'est, pour moi, c'est une stratégie, on se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'à la fin, on réduit le nombre de gamme à un seul produit, et tout le monde est obligé de faire la même chose, et après, on vend quoi, quoi. C'est ça l'histoire, c'est un peu comme le netbook pour moi. Moi c'est la même démonstration.
Ah, c'est intéressant.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui.
L'iPhone est une plateforme de développement, il la contrôle comme il contrôle le Mac.
Mais c'est pas la question, ça.
Ça développe des tonnes d'applications.
Bien sûr,
dessus.
Non, mais c'est pas le problème.
Ils vont faire la même chose sur l'Apple TV.
C'est juste pas le problème.
Il y a des extensions.
Bien. Alors, bon. Ça tombe bien parce que, évidemment, dans tout ça, tout le monde est d'accord sur le fait qu'Apple a fait avancer les choses, a fait un très beau téléphone, fait des très beaux appareils. Ce qu'on leur reproche, c'est le côté précaré, le côté tu ne viendras jouer dans ma chambre que si je t'ouvre la porte. Eh ben, vous avez
tous
vu
les opérateurs mobiles font la même chose.
Mais en même temps, c'est ce que font tout le monde.
Oui, mais est-ce que c'est bon pour les utilisateurs? C'est ça la question.
Alors attendez, justement.
C'est de retour.
Non, je vais donner à Tristan Nito une bonne occasion de se mettre en colère. Je vais donner à Tristan Nito une bonne raison de se mettre en colère. Vous avez vu le dernier appareil qu'Apple a sorti? Le nouvel iPod Shuffle, tout petit, minuscule, 4 Go de mémoire.
Avec une puce qui dans le casque.
Eh ben justement. Et ça, c'était pas marqué. C'est pas marqué d'emblée sur la page de l'iPod Shuffle quand on va chez Apple. C'est que ce tout petit baladeur sans écran, mais qui maintenant peut vous dire les titres, les playlists, etc. dans l'oreille avec une voix synthétique, bah, si vous essayez de mettre un casque qui n'est pas le casque livré avec, ça ne fonctionnera pas. Pourtant, ça ressemble à une prise jack, c'est bizarre. Eh ben non, il y a une puce à l'intérieur qui interdit au baladeur de fonctionner avec un autre casque, ou en tout cas avec un casque qui ne soit pas approuvé par Apple.
J'ai
pas
le temps de casque que j'ai marqué. C'est l'essentiel du développement d'Apple. Dès que vous fabriquez une paire d'enceintes, vous êtes obligé de payer des royautés pour avoir un dock qui permette d'accepter l'Apple ou l'iPhone.
Ouais, enfin, sur quelque chose d'aussi universel qu'un casque vous poser une qui question, se branche avec une prise jack, vous imaginez quand même.
Non, attention. Alors, je vais me faire, pour une fois, je suis là où on ne m'attend pas, je vais me faire défenseur d'Apple.
Ah bah moi aussi, chaque semaine je fais l'inverse.
Sur ce cas très précis, en l'occurrence, j'étais outré. Et j'en ai parlé sur mon blog et mes lecteurs sont venus me corriger. J'ai pris une belle volée de bois vert qui en l'occurrence était justifiée parce que je m'étais planté. C'est qu'en fait le casque, si on met un casque normal, ça va fonctionner, mais on n'a pas la possibilité de télécommander le bousin.
Ah, c'est d'accord, ça empêche de faire un.
Ce qui va devenir.
C'est parce que ce qu'il y a. Mais le fait est, c'est que ce qui est standardisé dans les mini jack 3.5, c'est la stéréo. Aujourd'hui, presque tous les constructeurs
ont intégré une petite télécommande dans le casque.
Voilà, ont bidouillé sur un quatrième fil la télécommande. Et comme la télécommande, elle est de plus en plus compliquée parce que il faut faire passer plein de signaux sur cet unique fil, ils ont été obligés de mettre une puce qui permet de faire ça.
Il y a d'autres exemples. Regardez les derniers iPod, les vrais, les gros, les beaux. Souvenez-vous, les iPods, vous savez, à disque dur, il n'y a pas si longtemps, vous pouviez les utiliser comme disque dur externe. C'est terminé. Un iPod Touch, vous essayez de le connecter, vous ne pouvez plus aller explorer les fichiers qui se trouvent sur l'iPod.
Mais c'est Apple, pas surprenant.
Bien sûr, vous pouvez le pirater,
vous pouvez le décompiler, vous pouvez
le jailbreaker, installer faire un telnet dessus.
Ce nouvel iPod a donc effectivement énonce le nom des chansons, le nom des artistes
avec une voix synthétique. Alors
est-ce que quand on a mis dans son fichier MP3 les paroles des chansons, il lit les paroles des chansons?
C'est pas le but c'est d'écouter.
Imaginons, est-ce que vous êtes renseigné là-dessus?
Non. Il ne faut pas oublier que ce petit iPod Shuffle n'a pas d'écran. Elle vous donne une navigation. Elle vous dit. Avant, l'iPod Shuffle, il y avait 512 mégaoctets de mémoire dedans. On écoutait ces 20 chansons et c'était terminé. Et puis on pouvait les écouter dans le désordre. Aujourd'hui, avec 4 gigaoctets de mémoire, évidemment, vous pouvez coller quelques centaines de chansons. Là, il faut une navigation parce que vous n'allez pas écouter toujours la même playlist en boucle.
La prochaine fois que je sortirai un timbre poste, je demanderai aussi 5 minutes de temps d'antenne sur LCI Radio.
Pourquoi un timbre poste?
L'iPod Shuffle, il est minuscule, voilà. Ça n'a aucun intérêt.
La petite taille, c'est important.
Oui, c'est important. Mais on est en train de perdre un temps fou avec cette histoire. Une dernière chose, peut-être avant de se guider, parce qu'il nous reste 2 minutes. Une toute petite boîte qui s'appelle Flip, qui fait la Flip Caméra, qui est une espèce de tout petit caméscope de poche qui coûte, ça coûte rien, ça coûte une centaine de dollars, $200 même pas, vient d'être rachetée par un géant qui s'appelle Cisco, qui est un géant des réseaux. Alors, a priori, on pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même métier.
Orange, ils font une lave radio, ils font un tas de matériel.
Non, mais ça, c'est pas eux qui les font, ils les distribuent.
C'est une histoire qui est très intéressante parce qu'au CES en janvier, qui est le grand salon électronique grand public, John Chambers, le patron de Cisco, a fait tout un show sur le positionnement de Cisco dans l'électronique grand public.
Absolument.
Slide à la pluie. Donc ils y vont à fond, ils ont une marque qu'ils ont rachetée il y a quelques années qui s'appelle Linksys, qui font des routeurs domestiques. Et tout le monde est sorti de là en se disant on ne croit pas Cisco,
c'est du réseau.
Ils sortent du B2B, ils n'ont rien à faire dans le B2C.
On avait tort. Et
là, ils rachètent cette semaine, donc hier ou avant-hier, ils rachètent Pure Digital qui sort ses petits appareils, qui a quand même réussi à faire presque 20% de part de marché des camcorders, des magnétoscopes, ce qui est assez étonnant, pour 590 millions de dollars. Ça fait en gros 3 fois le chiffre d'affaires
sur un secteur qui fait peut-être 1 ou 2% de marge. Donc, c'est vraiment payé très, très cher. Alors, l'astuce dans cette affaire...
Alors, pourquoi c'est payé si cher ? Parce que c'est ça que vous
allez
me révéler.
Attends, mais c'est là où ça devient intéressant. C'est que Pure Digital a été financé par Sequoia. Cisco a été financé par Sequoia.
Sequoia qui est un grand capital risqueur.
L'un des plus gros, top 3, par Mike Moritz. Et si on se souvient, il y a 15 ans, Cisco a racheté une cinquantaine de sociétés dont la plupart étaient financées par Sequoia.
Vous êtes en train de nous dire
Google
que c'est de la
financer Sequoia,
c'est-à-dire qu'une société rachète
YouTube
l'autre.
YouTube a été financé par Sequoia. Tiens, Google a racheté YouTube. Et à chaque fois, c'est des deals qui sont faits en actions. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui rachète, c'est celle qui a été financée précédemment par Sequoia, donc Google, qui est le nouveau Cisco, qui rachète des petites startups et c'est payé par l'argent public, vu que c'est payé en stock de marché coté. Et ça a un nom dans la théorie des VC américains, le conveyor belt, et ça n'existe qu'un seul grand monde, Sequoia, Silicon Valley.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un investisseur qui fait payer ses investissements suivants pas en, en faisant racheter une société
c'est
par
value.
L'autre.
C'est plus-value.
C'est énorme.
Et comment tu appelles ça
Le conveyor belt. C'est le distributeur de bagages qu'il y a dans les aéroports.
Bon, et bien sûr, ces bonnes paroles, c'est la fin de la French Connection. Ça, c'était le, la démonstration du professeur Sepulveda pour cette semaine.
Merci,
c'est
professeur.
Passionnant. Vous, il faudrait nous l'écrire et le mettre sur le blog, je pense. Parce
on
que...
aurait dû en parler avant.
Je pense.
Shuffle, je trouve, mais bon.
Ça valait bien l'iPod Shuffle. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup, Tristan Nitto. Vous reviendrez même pour parler d'autre chose que de Mozilla.
Ah mais volontiers.
Eh ben voilà, ça y est, on a un nouveau membre dans la French Connection.
Et
la
si fin... Sour achète un timbre poste, je viens vous en parler. Hein.
C'est la fin de cette émission. Salut à tous, à la semaine prochaine.